Here it comes.
First down!
Here it comes. First down, c'est Red Cashin.
Alors, on est de retour à la zone payante en compagnie de Stéphane Cadorette et de Jean Carrier. Les gars, c'est le match qui commence. Premier essai. On va commencer ça avec un play action avec Jean Carrier, tiens. Premier jeu cette semaine. Est-ce que les finalistes du Super Bowl sont dans le doute par rapport à Garoppolo à la position de corps arrière? Écoute, il a mal joué en fin de semaine contre les Dolphins. C'était effrayant.
Il a été horrible, on va se le dire. Il a été remplacé, en plus, durant la rencontre par CJ Better. Je suis convaincu que présentement, les Niners commencent un peu à douter de Jimmy Garoppolo. Par contre, il faut regarder un peu la situation. Qui y a avec les Niners qui peut faire le boulot? Est-ce que Nick Mullens peut faire le boulot? Ben, on l'a vu contre les Eagles. La réponse est non. CJ Better, le carrière, un ancien de l'Université d'Iowa. Écoute, c'est un bon réserviste, mais je pense pas qu'il y a les outils nécessaires pour être un partant fiable dans la NFL. Donc, ça reste que Jimmy G est encore l'homme de la situation avec San Francisco. Mais je pense que quand ils sont allés chercher des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ils s'attendaient un petit peu plus de la part de Garoppolo. Moi, je vais te dire...
Mais surtout quand ils l'ont signé au montant qu'ils l'ont signé.
Ouais, exact. Moi, je vais te dire où est-ce que le doute a commencé à s'installer. Pour moi, ça faut revenir au Super Bowl l'an dernier, quand les Chiefs ont pris les devants, puis les Niners ont eu une drive pour reprendre les devants au Super Bowl vers la fin du match. Puis honnêtement, il y a eu un call parfait de son entraîneur-chef. Il y a eu une longue passe. Son joueur était libre. Et il avait juste besoin de la mettre dans les mains de son receveur. La passe a été trop longue. Ça n'a pas tant paru. Ça a été juste une passe incomplète. Mais il était complètement seul. Il l'a raté dans un moment crucial. Ça me fait douter un petit peu. Est-ce que Jimmy G est capable d'être le carrière que le monde pense qu'il peut être? Je le sais pas. Écoute, on va en savoir plus, je pense, dans les prochaines semaines. Puis oui, il soigne une blessure à la cheville, mais j'ai des petites nouvelles aussi pour Jimmy G. C'est pas le seul carrière qui joue blessé dans la NFL, là. Il y en a d'autres qui font la même chose. Là, maintenant, est-ce qu'on connaît la gravité de la blessure? Y avait-tu vraiment mal? Écoute, c'est tout ça qui l'a vraiment empêché de bien jouer. Parce que ta blessure à la cheville, elle n'a pas rapport avec les lectures que tu prends sur le terrain. Puis je peux te dire qu'il a pris des mauvaises lectures face aux Dolphins de Miami en fin de semaine. On va voir la suite des choses. Moi, je pense que pour l'instant, c'est encore l'homme de la situation, mais il y a des sérieux questionnements qui se pose dans la baie de San Francisco.
En tout cas, si les 49ers ont perdu confiance en Jimmy Garoppolo, il y a même des gens qui commencent à perdre confiance que les 49ers vont répéter leurs exploits de l'an dernier.
Ça commence à être difficile, là. Ils sont dans une division où ça ne pardonne pas. Ils ont des blessures sur les fronts. Leur belle profondeur est un petit peu partie aussi sur la ligne défensive. Ça va être difficile là, de répéter les exploits.
Deuxième essai, on y va avec Stéphane. Stéphane, qui aurait cru qu'il y a deux ans, Antonio Brown et Le'Veon Bell seraient les deux chômeurs en 2020? Le'Veon Bell qui a été libéré cette semaine. C'est la faute de qui, ce dernier fiasco en lice là à New York?
Écoute, j'aurais tendance à te dire que c'est la faute à trois individus qui sont Le'Veon Bell lui-même, parce que on a beau là, blâmer les Jets puis le schéma offensif, il reste qu'il ne joue pas du grand football. Adam Gase est l'autre responsable. Il y a personne qui semble être à son meilleur sous ses ordres. Là, c'est hallucinant le nombre de joueurs qui ont connu des performances étincelantes loin de lui. On l'a vu encore avec Ryan Tannehill face aux Bills cette semaine. Écoute, puis le troisième responsable, c'est l'ancien directeur général des Jets, Mike McHagan, qui l'a embauché. Semble-t-il que dès qu'Adam Gase est arrivé, il n'était pas d'accord avec cette embauche-là. Donc, ça a été tout croche dès le départ. Ça n'a jamais été une belle relation entre Bell et son entraîneur-chef, Adam Gase. Peut-être que tout ce monde-là aurait dû se parler au préalable. C'est le cas classique de « on va chercher un joueur parce que c'est un gros nom, on va exciter un peu nos partisans et les médias locaux ». Mais finalement, c'était tout simplement pas un bon fit. Le'Veon Bell s'est ennuyé dès le début de son excellente ligne offensive avec les Steelers. Moi, je me rappelle lorsqu'il avait signé son gros contrat avec les Jets, c'était la grande question que je me posais. Il y avait deux choses, en fait. Il y avait ça. Tu sais, il atterrissait à New York où il y a tout simplement pas de ligne offensive. Tu sais, pour un style de porteur de ballon comme lui, je trouvais que c'était vraiment pas un bon fit. L'autre chose, c'est son année de grève, là. Faut pas oublier qu'il avait pris une année complète chez lui à bouder parce qu'il voulait pas se rapporter aux Steelers en raison de leur offre de contrat qu'il jugeait déraisonnable. Premièrement, il a perdu de l'argent là-dedans, mais il a perdu la face surtout parce qu'il s'est retrouvé à jouer à un moment donné complètement rouillé là, sa première année avec les Jets. C'est pas évident. Comme je l'ai dit, mauvaise communication entre ce trio-là. Le DG qui part par après, tu sais, c'est plus la même gang qui l'a embauché. C'est un mélange un peu bizarre depuis le début. Puis Le'Veon Bell, quand je disais qu'il n'a pas connu nécessairement un bon rendement, là, ben écoutez, il n'y a pas une course de 20 verges ou plus depuis qu'il est avec les Jets. Là. Sa dernière course de 20 verges ou plus, ça remonte à 2017. Au football, c'est une éternité, ça. Là. Donc, un peu tout ça, c'est un peu trois responsables, à mon avis. On peut pas directement pointer du doigt ou Bell, ou Gaze, ou l'ancien DG. C'est un beau melting pot de mauvaises décisions de part et d'autre.
OK, puis il se retrouve où, là? Mettons que vous avez un deux pièces à mettre.
Ben, je dirais que les deux côtés aussi sont très contents. Là. Je suis sûr que Le'Veon Bell est heureux. Oui. On l'a vu sur Twitter. Puis les Jets, je pense, sont heureux aussi de passer à un autre appel. Là.
Mais tu sais, c'est quand même une catastrophe pour les Jets d'aller chercher un joueur comme ça, de payer autant d'argent, puis de se retrouver les mains vides, même pas un sixième, même pas un cinquième choix au repêchage, à rien. Tu sais, c'est quelle gestion désastreuse de ce dossier-là d'un bout à l'autre. Là. Mais il va se trouver une équipe, Le'Veon Bell, parce que de ce que j'ai compris côté salarial, les Jets lui ont comme versé 6 millions garantis cette année. Une équipe pourrait l'embaucher à rabais puis payer à peu près rien. Puis Bell a déjà son 6 millions en poche. C'est juste qu'il faut se demander à ce stade-ci de sa carrière, est-ce que c'est encore le cheval qui était, il y a quelques années, là, le partant incontesté pour trois essais. Là.
Puis je tiens à rappeler que c'est un joueur qui était spécial, Le'Veon Bell.
Ouais, ben oui.
Et moi, j'ai adoré le voir évoluer avec les Steelers. Un gars qui il a redéfini c'est quoi la patience pour un porteur de ballon. Là.
Un style unique. Là.
Complètement. Donc, est-ce qu'il est capable de revenir à ça? C'est une bonne question. Ça va y prendre une bonne ligne à l'attaque. Moi, je pense qu'il y a quand même certaines équipes qui ont des besoins à ce niveau-là de porteur de ballon. Tu disais le meilleur fit possible, Jean-Nicolas. Écoute, est-ce qu'il va accepter d'être un réserviste? Ça, c'est une grande question parce qu'il y a certaines équipes, je pense, qui pourraient avoir un bon one-two punch. Je pense aux Packers, entre autres. Écoute, moi, comme réserviste, il serait-tu parfait à Green Bay? Mais je pense pas qu'ils ont nécessairement besoin de lui. Par contre, il y a des équipes comme les Chargers. Je pense que ça pourrait être quelque chose d'attrayant pour Los Angeles d'aller chercher Le'Veon Bell.
Mais moi, je verrais plus personnellement une équipe qui est vraiment prétendante. Tu sais, comme les Chargers sont déjà un équipe qui annonce difficile, mais je sais pas pourquoi j'imagine dans ma tête les Bears de Chicago. Tu sais, ils ont perdu Tariq Cohen. Tariq Cohen n'est pas le partant, mais c'est un porteur qui amène du dynamisme dans leur attaque, ce que Bell peut amener en sortant du champ arrière, courir différents tracés. J'ai l'impression que
Montgomery est un type de porteur différent. C'est un petit porteur. Ouais. Pour Le'Veon Bell, ça reste un porteur qui est quand même assez physique. C'est un gros bonhomme. C'est un bon. Je suis d'accord, ça serait un meilleur fit avec les Bears.
Est-ce qu'une équipe comme les Bills pourrait se laisser tenter? Ça peut faire partie de l'équation aussi. Un club comme ça qui a des chances d'aspirer à un championnat, qui se dit, bon, écoute, on peut aller chercher un joueur clé en renfort sans nécessairement y donner le ballon 200 fois cette année. Là. Je pense qu'il va falloir surveiller plus de ce côté-là que du côté des équipes qui ont des fiches perdantes puis qui essaient juste de sortir la tête de l'eau.
OK. Hey, les boys, on va passer au troisième essai. Je pense que l'histoire que des entraîneurs qui se font congédier vont commencer à prendre l'ampleur. Là, à l'heure où on enregistre le podcast, curieusement, Adam Gase a toujours une job. C'est ce qui est le plus surprenant après deux semaines. Mais Dan Quinn, lui...
Toutes les semaines, on est surpris.
Oui, c'est ça, exact. À un moment donné, on ne le sera plus, je peux pas croire. Mais cette semaine, par contre, c'est Dan Quinn. Ça non plus, ça ne nous surprend pas vraiment. Là, on l'avait déjà... Mm-hmm. On l'avait calé, entre guillemets. Mais ce qu'on n'a pas calé, par exemple, c'est des gars comme O'Brien et Quinn qui perdent leur job, mais ils n'ont pas un si mauvais bilan que ça, alors que d'autres entraîneurs semblent des intouchables. On parle de Gase, je pense pas qu'il fait partie des intouchables, mais il y en a d'autres qui ont traversent des vallées désertiques depuis des années et toujours pas de menaces de congédiement. Comment vous expliquez ça?
Moi, c'est la relation que tu peux établir avec le décideur, soit le directeur gérant ou le proprio. Souvent, c'est le proprio qui fait ces grandes décisions-là. On l'a vu avec les Falcons. Quand tu deviens ami avec ton entraîneur-chef, ça commence à être difficile de le congédier. C'est peut-être pour ça aussi que Dan Quinn a gardé sa job, selon moi, peut-être une année de trop. C'est la patience.
C'était le cas avec Jason Garrett aussi à Dallas?
Oui, moi je pense que oui. Ah oui. Je pense que c'était clairement le cas aussi. Jared Jones a toujours protégé Jason Garrett. C'était faut pas oublier qu'il a joué aussi pour les Cowboys, Jason Garrett, comme réserviste à Troy Aikman. Donc, c'était assurément le cas. Donc, ça, c'est un des points. L'autre point, des fois aussi, c'est tu veux laisser la chance à ton entraîneur-chef quand même d'établir un petit peu ce qu'il veut faire. Des fois, en un an ou deux, même si ta fiche est vraiment mauvaise, ben si tu dis, ben écoute, on va y laisser une année de plus, c'est peut-être là qu'on va virer le coin, on va tourner le coin. Donc, il prêche la patience, mais dans le cas d'Adam Gase, c'est qu'il n'a pas eu de succès nulle part où ce qui est allé. Quand il est allé avec les Dolphins, ça a été catastrophique. Maintenant, avec les Jets, c'est encore catastrophique. Je vois pas la lumière au bout du tunnel, aucunement pour le club des Jets.
Donc, il y a même des gens qui disent, imaginez ce que Peyton Manning aurait fait s'il n'avait pas été pris avec Adam Gase à Denver.
Il y a quand même eu des saisons, il y a une saison record en 2013, là, mais c'est ça le problème, c'est qu'Adam Gase, 2013-2014 avec Peyton Manning, ça y a forgé une réputation insensée de gourou offensif. T'sais, tout le monde est parti là-dessus, regardez ce qu'il a fait avec les Broncos.
Mais c'est beaucoup plus Peyton Manning quant à moi qui est la raison du succès. Là.
C'est pas mal ça. T'sais. Alors, faut en prendre et en laisser là, dans ce temps-là. Des entraîneurs, comme tu parles, c'est drôle parce que ça me fait rire, Jean-Nic, tu amènes cette situation-là. Puis j'ai vu quelqu'un sur Twitter en fin de semaine dire, par rapport à Mike Zimmer, la défaite un peu difficile à encaisser, in extremis face aux Seahawks dimanche soir. Il y en a qui s'y ont mis à dire, écoute, pourquoi ce gars-là est toujours en sécurité? Il est arrivé en même temps qu'O'Brien en 2014. O'Brien faisait le saut avec les Texans. Mike Zimmer est arrivé avec les Vikings. Depuis ce temps-là, O'Brien a amené son équipe à 4 championnats de division, 2 victoires en série. Mike Zimmer a même pas fait ça avec les Vikings. Il y a seulement 2 championnats de division et 1 victoire en série. Bon, peut-être. Mais qui O'Brien a battu en série? Il a battu en 2016 les Raiders qui étaient privés de Derek Carr. Rappelez-vous, c'était Connor Cook qui avait amorcé le match. Là, tu sais, c'était vraiment une victoire sur un plateau d'argent. Puis en 2019, l'an passé, son autre victoire en série, c'était la première présence en série de Josh Allen. Je suis convaincu que ce serait autre chose aujourd'hui. Puis les championnats de division, faut faire attention à ça. La division sud de l'AFC, ça fait des années que c'est très, très, très ordinaire comme calibre. Tu compares les Vikings de leur côté, NFC Nord, t'as les Bears qui ont connu quand même de bonnes saisons, t'as les Packers qui sont toujours, toujours, toujours des prétendants sérieux. Là, il y a eu des années un petit peu plus difficiles dernièrement, mais même à ça, tu pouvais jamais éliminer les Packers dès le début de la saison, comme certaines formations là, de l'AFC Sud. Là, tu sais, Jacksonville, c'est rare. Tennessee recommence à prendre le dessus, mais ils ont été pendant des années médiocres. Tu sais, faut juste faire attention. O'Brien a perdu son emploi, puis je pense que c'était mérité aussi parce qu'on a discuté la semaine passée beaucoup de décisions de personnel très, très, très douteuses. Donc, quand on voit des comparaisons comme ça, moi, mon point, c'est juste qu'il faut en prendre et en laisser, analyser un peu dans quel contexte évolue chaque équipe, puis des fois, ça nous donne la réponse. Pourquoi tel entraîneur a plus de longévité qu'un autre, même s'il n'y a pas de meilleurs résultats?
C'est bien dit.
OK, merci, les gars. On va se laisser pour une pause et on va se retrouver. Tu ajouteras des choses après la pause, Jean, parce que ça va être le 4e essai. Bougez pas.